Cher lecteur, bonsoir, bonsoir David.
Bonsoir.
Alors ce soir, on est heureux de vous retrouver avec un livre qui nous a tous les deux véritablement bouleversés, puisqu'il s'agit d'un texte court et poignant qui a été écrit par Jérôme Garcin et qui s'intitule « Mes fragiles », qui a été publié aux éditions Gallimard et sur lequel nous aimerions un petit peu nous attarder. Alors, tout le monde connaît bien entendu Jérôme Garcin. Jérôme Garcin est journaliste et écrivain français. Il dirige le service culturel du Nouvel Obs et produit et anime l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter. Et c'est de là qu'on connaît, bien entendu, sa voix depuis un certain temps. Alors voilà, Mes Fragiles est un texte poignant qui traite justement des drames familiaux qui sont vécus à différents moments de la vie de l'auteur. Alors c'est vrai que les morts, les drames ne sont jamais loin de la vie de Jérôme Garcin, puisque depuis 25 ans, l'auteur, chez Gallimard, a constitué une sorte de récit souvent dédié à une personnalité de sa famille, de son panthéon familial. Il y a eu la chute du cheval en 1998 qui parlait justement de l'accident de son père. Ensuite, il y a eu le syndrome de Garcin. Et un livre qui a été publié en 2018 et qui parle justement de son grand-père médecin, parce qu'il faut savoir que Jérôme Garcin est issu de toute une famille de médecins. Et surtout un très beau livre en 2011 qui s'intitulait Olivier, où il évoquait justement la perte de son frère jumeau quand il avait 6 ans. Alors cet écrivain, Jérôme Garcin, il nous touche à tous les deux. Il nous touche par la force de ses mots, par l'histoire bien entendu qu'il raconte et surtout par l'empathie qui se dégage de son des récits. Mes fragiles, alors il faut savoir qu'avec Mes fragiles, avant tout, il raconte l'histoire de deux personnages qui lui tiennent fortement à cœur et qui sont décédés en l'espace de 6 mois. Il s'agit de sa mère et de son frère Laurent qui lui-même souffre du syndrome X fragile. Alors l'écrivain se veut archéologue de sa famille, deux morts qui s'ajoutent à cette longue liste dans cette famille justement de défunts. Il fait un travail de sauvegarde vis-à-vis de ses disparus. Il a retrouvé des lettres, des peintures de sa mère et de son frère et il leur parle en silence depuis si longtemps. C'est une compagnie heureuse et apaisante parce que Jérôme Garcin ne semble pas être, je dirais, en lutte avec la mort, avec la perte, mais plutôt il semble l'accepter. Alors ce livre, je dirais, est une trace et non un adieu à ses proches, parce que pour lui, les morts vivent à travers nous. Et je dirais que dans ce livre, Jérôme Garcin parvient à mettre véritablement les mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X.
Oui, ben je suis assez d'accord avec ton introduction. Moi, ce qui me frappe, enfin, je vais reprendre des choses que tu as dites. Hein. Alors, Garcin est rédacteur en chef des pages culture du Nouvel Obs.
Tout à fait.
Il est producteur et animateur sur France Inter. Donc, ce qu'on peut dire sur le plan, en tout cas sur le plan des lettres et des arts, c'est que c'est un homme puissant. Mm-hmm. Il y a quelque chose. Mm-hmm. Quand tu lis sa bio, il y a quelque chose de l'ordre de la puissance. Il y a quelque chose qui marche. Et donc on peut dire que c'est un homme qu'on peut dire puissant. Mm-hmm. On est d'accord. Mm-hmm. Mais là, il met son genou en terre et il montre qu'il est fragile. Mm-hmm. Et donc moi j'aime bien cette contradiction. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qu'on sait fragile, ce n'est pas quelqu'un réputé fragile qui va parler de la fragilité, mais c'est, voilà.
Il parle de ses fragiles.
Voilà, c'est un peu une grosse voiture qui va dire, ben là je rentre, voilà, c'est comme une course de Formule 1, je rentre en stand, prendre de l'essence, quoi. Et ça j'aime beaucoup.
C'est tout à fait juste parce que il se montre très humain, parce que cette écriture est à la fois poétique, mais elle est aussi très vraie et très crue, parce qu'elle décrit des moments qui sont bouleversants liés à sa famille, puisque c'est une famille qui a connu énormément de douleurs, de drames, de tristesse, et aussi de non-dits. Et donc c'est vrai ce que tu dis, il est quelque part très humain dans la façon dont il raconte, parce qu'il est lui-même, c'est-à-dire qu'il a hérité la maladie, je dirais, sans lui-même l'avoir, mais il la transmet à sa fille, qui elle-même la transmet à sa petite-fille, c'est la maladie du gène X fragile. Donc, c'est une maladie qui fait que son frère et pas lui est atteint. Et donc, dans ce livre, il raconte ce frère qui est particulier, qui va disparaître pendant le Covid 6 mois après la mort de leur mère. Et il parle de cet homme qui est un homme sauvage, qui est un homme lunaire, qui est un homme, je dirais, un peu autiste, qui vit dans un monde parallèle, qui vit dans un monde de chiffres, un monde d'écrits indéchiffrables. Et même si cet homme, Laurent, son frère, est très fragile, c'est un homme à la fois très fort, très grand, qui a une langue rocailleuse, caverneuse. C'est un homme du secret, qui est mystérieux, qui se divertit de son propre ennui, qui vit au jour le jour, qui prend la vie comme elle le vient, et qui se divertit de son propre ennui. Et c'est un homme qui, à la mort de sa mère, parce que même si Jérôme Garcin se présente comme étant le garant de son frère, la mère a été très très présente, et ce fils, aussi handicapé qu'il est, eh ben, il va faire face à cet enterrement, et ce passage est bouleversant.
J'aime beaucoup quelque chose que tu as dit, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce rapport à la vie autre. C'est qu'il est, porteur de la maladie. Mmh. Et donc, voilà, moi, je ne suis pas porteur d'une maladie, mais je dis que je m'imagine bien que quand on est porteur d'une maladie, qu'on perd son frère à cause de cette maladie, ben, on sait que la vie, hein, aujourd'hui, hein, mercredi 15 mars, on sait que ben, la vie est une illusion, qu'elle peut s'arrêter dans 20 minutes. Et donc, il y a peut-être quelque chose de très positif là-dedans. Et c'est ça qui transparaît. Donc, tu vois ce que je dis ? Il est porteur de quelque chose.
Il y a une force.
Mais il est porteur de quelque chose. C'est comme une montre qui lui rappelle... bon, voilà, je dis, la vie, comme Brel disait, est, est un accident biologique. Mm-hmm. Et donc, ça peut s'arrêter. Et moi, je sens que parce qu'il est porteur de cette maladie, il ne se bourre pas de médicaments parce qu'il a angoisse de cette maladie, mais il prend la vie
à bras
le corps. Et pour moi, ce n'est pas du tout un livre sur la mort. Mais la mort est l'objet. La mort n'est pas le sujet du livre, mais c'est un livre pour moi sur la nudité, la réelle nudité, dans le sens montrer ses fragilités. Alors, je me suis fait la réflexion, parce qu'on est quand même dans un monde où il faut toujours, voilà, après avoir pris sa douche et mis son costume, il faut être puissant, 24 heures sur 24. Alors, ce serait quoi un monde? 4 heures, par exemple. 4 heures, c'est le temps où, l'année passée, Facebook et Instagram sont tombés en panne et tout le monde était déboussolé. Ce serait quoi, excuse-moi de partir un peu, ce serait quoi, fictivement, un monde où, je sais, très fictif ce que je veux dire, où tout le monde serait obligé de montrer ses fragilités, de ne plus être puissant, de tout se dire. Là, on est dans un havre de paix. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est plus facile de faire péter Facebook. Mais j'aime bien cette notion. On a le droit d'être fragile. Après, on peut en discuter.
Et sans autant pour tomber dans la mièvrerie, parce qu'il n'est pas dans l'autocomplaisance non plus.
Pas du tout.
Comme tu dis, il est très, très fort. Et on sent que c'est lui qui tient toute cette famille, mais en même temps, l'écriture semble lui avoir donné une force de survivre à tout ça. Et il écrit parce qu'il ne supporte pas l'oubli, parce que finalement, tous ses livres rassemblent ceux autour des siens. Et puis, donc, c'est-à-dire que ses livres lui permettent quelque part de rassembler tous les siens qui ont disparu, je dirais. Et puis, ses livres sont biographiques. Et puis, on sent très fort ces livres qui sont toujours fondés sur la peur de l'oubli et la force de l'écriture qui lui ramène l'obligation de la mémoire, qui lui ramène quelque part cette obligation de se rappeler et de ne pas oublier ce qu'on aime. Et aussi, écrire lui permet d'offrir aux autres une survie à leur mort. Et ça, on le sent aussi très très bien dans cette écriture. Il leur donne quelque part une seconde vie.
Oui, on le sent tout le temps. Moi, je suis assez marqué parce que, bon, pour moi, c'est un grand livre de paix, hein, de toute façon, paix avec soi-même, paix avec la mort, paix avec la maladie, paix avec le présent, paix mm-hmm. avec l'avenir. Mais moi, c'est la première fois que je lis un livre où l'objet, donc, pas le sujet, où l'objet est la mort, mais c'est la première fois que je lis un livre où on ne se débat pas contre ce destin. Mm-hmm. Donc la mort, quand je dis c'est objet, c'est un objet, c'est un peu une provocation. Mm-hmm. C'est entre le sujet et l'objet. Mais c'est un livre où on ne se débat pas contre mm-hmm. la mort, où la mort est là.
Elle
est acceptée. Alors, il y a quelques semaines, nous avons débattu dans ce même studio d'un auteur, Gygax, qui prenait la plume pour, donc Gygax, c'est un auteur de Adrien Gygax, c'est un auteur de 32 ans. Il prenait la plume d'un vieillard pour montrer la sagesse. Et on a débattu ici sur le, voilà, est-ce que
sur les limites, la mort,
la sagesse. Est-ce que voilà, quelle est la limite de l'autofiction? Moi, j'avais été déçu que cette écriture n'était pas née d'une réelle personne. Et là, je retrouve quelque chose de l'authenticité. Et j'aime beaucoup ça. Et voilà, je sais qu'en même temps, je n'ai pas lu l'ouvrage. Je sais qu'il y a en même temps environ un ouvrage plus philosophique sur la mort qui est sorti. Et moi, j'en ai, c'est très, très personnel, j'en ai un tout petit peu marre des livres qui réfléchissent de manière cérébrale à tout ça. Alors, j'ai juste encore envie de dire que c'est un livre, justement, physique, corporel, qui y va et qui est très simple, au fait.
Oui, avec des mots très simples. Ouais. Il s'adresse à tout le monde. Et puis surtout aussi, il met le point sur quelque chose qui est terrible dans cette famille, parce qu'on voit que c'est une famille avec des traditions, c'est une famille d'entraide, c'est une famille humaine, c'est une famille qui a des valeurs. Mais il y a aussi cette vieille tradition des non-dits, des secrets de famille. Et lui, quelque part, parce que ils n'ont jamais cherché dans cette famille, c'est étonnant d'ailleurs, ni la mère, ni à l'époque le père, ni personne même, jusqu'à ce que lui entreprenne des démarches, je crois dans les années 90, pour comprendre le syndrome dont souffre son frère. Il finit par mettre un nom exactement sur la maladie et il le dit lui-même, je n'ai jamais cherché à faire part à ma mère de ce dont souffrait mon frère, cela justement pour l'épargner encore une fois d'un drame supplémentaire. Donc il y a une empathie, un respect énorme envers cette mère qu'il admire de toute cette force. Et il dit d'ailleurs, et je reprends un petit passage, il dit « J'ai soudain l'impression de forcer et d'entrebâiller au sous-sol d'une très ancienne demeure familiale où j'ai ma part d'héritage, une porte interdite et vermoulue derrière laquelle dorment d'un sommeil agité des secrets bien gardés, des dommages informulés, des souffrances inexpliquées. » Alors c'est sûr qu'à l'époque, peut-être que il n'y avait pas encore des diagnostics tels qu'aujourd'hui, mais finalement, c'est lui qui a osé, qui a pris son courage à deux mains et qui a osé finalement mettre fin à quelque chose dont tout le monde savait, mais personne n'avait réussi à mettre un mot. Et ça aussi, c'est aussi une histoire de non-dits et de secrets familiaux.
C'est marrant ce que tu dis parce que ça ressemble fort à ma toute dernière note. Mmh. C'est un peu la dernière chose que je vais dire ce soir, c'est que bon, on a déjà dit, il accepte la fin de ce chemin. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des secrets de famille, comme dans toutes les familles. Mais ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est aussi un livre, une incantation aux disparus. Et cette écriture, ce chemin est empli de gratitude pour ce qui a été donné aussi. Mm-hmm. On voit bien les personnages.
Donc,
finalement, on parle de mort, mais on les sent très vivants quand on parle. Et donc, plein de gratitude pour ce qui fut donné, reçu. Alors, peut-être pas dit, mais parfois quand même dit. Alors, inavoué, avoué, mais les morts dont ils parlent sont très vivants et ça les fait vivre de manière très, très, très automatique. Et c'est clamé dans l'écriture comme... comme des larmes apaisantes.
Et puis aussi, comme tu dis, on sent qu'il y a énormément d'amour dans ce livre, parce qu'on sent aussi qu'il a reçu énormément d'amour, que la mère, tant admirée pour sa force et sa joie de vivre, malgré, comme je dis, tous les drames qui ont jalonné sa vie, est une femme très très forte, qui a toujours pris tout en main, qui a survécu à la mort de son petit garçon, qui était le jumeau de Jérôme Garcin à 6 ans, qui a survécu aussi à la mort de son mari très jeune, qui a un enfant handicapé, et pourtant une femme qui continue à être positive, qui peint, qui écrit, et qui, même si elle connaît, parce que la façon dont il décrit la fin de sa vie, elle souffre d'une ostéoporose aiguë qui semble vraiment l'arracher de douleur, et ben elle garde une dignité, et on sent aussi l'amour qu'elle a donné, ben il la le lui redonne. Et on sent dans ce respect, finalement, de l'écriture, il y a beaucoup de respect dans cette écriture, il y a beaucoup d'amour qu'on sent dans ce livre-là.
Oui, ben moi, à titre personnel, pour conclure, je dirais, lisez ces 107 pages.
Hein, exactement.
Ça prend 2 heures. Et quand c'est écrit de manière aussi facile et paisible et porteuse d'espoir, eh ben... confrontons-nous à des choses plus difficiles.
Exactement.
Si c'est pour le recevoir comme ça, ben ce n'est pas un cadeau empoisonné, c'est un réel cadeau pour la paix.
Et comme tu le dis, le texte trouve justement sa force dans sa brièveté, parce que c'est un récit dense, avec des mots simples, qui raconte la douleur sans circonvolution ni effet de style. Et je dirais que Garcin confie en fait dans ce livre ce que c'est de grandir dans une famille qui est marquée par l'interdiction de s'épancher. Et donc c'est un héritage dont il se défait en se mettant à écrire finalement. On se retrouve dans 2 semaines, David.
Dans 2 semaines, et un grand merci à M. Jérôme Garcin.
Exactement. Merci beaucoup et à très bientôt.